Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous. 21h47, c'est Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel et donc Daniel Riolo qui est avec nous comme tous les lundis soirs, 21h45. Les questions de Daniel, au drôle de dame, Daniel, la carte blanche.
Alors, je démarre avec quelque chose de général. Alors, franchement, vous pourriez faire tous une demi-heure dessus. Désolé, essayez de faire bref. C'est juste pour savoir, à titre informatif, est-ce que dans vos pays respectifs, il y a les mêmes débats qu'ici? Il y a des politiques qui veulent pas mettre d'écran géant pour suivre la Coupe du Monde. Il y a des gens qui disent que la Coupe du Monde c'est bidon, qu'ils la regarderont jamais.
C'est un thème qu'on a fait pendant une demi-heure l'année dernière, mais c'est intéressant.
Qualifié.
Ah oui, merde, c'est vrai. C'est vrai.
C'est pas ta soirée, Johan.
Tu n'es pas dans cette discussion. Mais les autres, oui, bah, bon, vous savez aussi, puisque vous suivez ce qui se passe en France, vous savez ce qui se passe en France. Donc est-ce que c'est plus, moins, beaucoup moins dans vos pays?
Bah, super rapide pour l'Espagne, c'est le débat n'existe pas en fait.
D'accord.
C'est-à-dire ça, j'aime personne, quasiment personne.
Julien non plus, et en revanche, Polo, oui.
Julien non plus?
Non. Mais tu sais, moi, c'est pas le maire de la ville qui va, excuse-moi, Polo, juste rapidement, qui va décider. Ce sera dans tous les pubs, il y aura les télés partout, il y aura des grands écrans partout, il y aura des, ils vont s'arranger pour qu'il y ait plus de monde possible. Qui paye une place ou qui s'achète à boire et tout ça, c'est un gros business aussi hein, d'avoir l'Angleterre en Coupe du Monde.
Bien sûr, ici aussi les patrons de bar ont dit non mais vous avez pas un Pierre Urmic
Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Oui. Ouais.
Ah, pour l'instant en tout cas.
On l'a pris Paris aussi, hein, elle a dit ce soir.
Elle a confirmé.
Ouais, pas d'écran géant.
Ah oui, c'est cool. Comment elle va faire pour s'asseoir à côté de Nasser Al-Khelaifi
au partir de quand tu mets un écran?
Ouais, ça fait bizarre. Et Marseille non plus a priori.
À partir mais de quand
c'est à la limite.
Marseille, c'est sûr.
Marseille, à la limite. Mais Anne Hidalgo, qui est au Parc des Princes, qui la joue grande copine avec Nasser Al-Khelaifi depuis des années, je soutiens le PSG, le PSG Qatar et tout, et elle fait. Ah, et donc, là, ça va être compliqué. Là.
Après,
c'est compliqué.
C'est intéressant ce sujet parce que les écrans géants sont une arme politique réelle. On l'a connu en Espagne. C'est-à-dire que lors de la fameuse. En 2010, quand l'Espagne.
Championne du monde.
Et championne du monde en Afrique du Sud, Barcelone ne retransmet pas les matchs. Parce que c'est une mairie séparatiste, on appelle nationaliste en espagnol, qu'on traduirait par régionaliste. Et donc, c'est aussi une arme politique, cette histoire d'écran. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris ici, puisqu'on a connu ça en Espagne.
Toi, Polo, oui, rapidement, on l'a évoqué la semaine dernière, mais c'est semblable à la France, quoi.
Pas sur
les écrans.
Écrans géants, pas à ma connaissance. En plus, on est dans un pays décentralisé, donc ça se passe pas comme ça. Non, pas à ma connaissance. Je peux avoir raté une info, mais c'est pas là-dessus que ça compte.
Et puis, excuse-moi, mais écran géant dehors, novembre-décembre, en Allemagne.
Oui, non, mais ça, c'est un truc, moi, qui m'a.
Tu vois,
déjà, parce que les gens oublient, mais ça coûte très cher d'avoir un écran géant.
Bien sûr.
Pour les municipalités et tout ça. Et en plus, c'est une période.
Plus une sécurité également assurée.
Mater
un match de l'équipe d'Allemagne mi-décembre à Cologne, pas sûr.
Bah, et même Paris ou Lille, un 1er décembre, il peut pleuvoir, il peut geler, il peut froid.
C'est pas la meilleure période.
Madrid, en altitude, 600 mètres.
Madrid fait froid aussi.
Johan Crochet. Je me souviens, fin août, on avait discuté ensemble d'un club que t'aimes bien, d'un club que j'aime bien, même si les supporters se sont illustrés contre mon cher Sud en les traitant de cutéreux comme d'habitude. Mais j'aime quand même bien l'Atalanta, même si il y a énormément de gros racistes dans leur tribune. Ils sont encore deuxième.
Premier que c'est quand même.
Effectivement, avec 20 points. Tu savais pas trop te positionner, tu disais il y a eu des départs, il y a eu mine de rien il y a presque un trou parce que la Lazio je trouve pas ça formidable, Milan on peut penser que ça peut remonter parce que c'est quand même une belle équipe, mais Udinese et Rome, la Roma ça, moi, je les ai encore vus samedi contre l'Inter, c'est pas génialissime, la Juve est déjà à 7 points derrière. L'Atalanta ça va faire podium, ça peut faire plus, ça peut faire.
Je sais pas parce que moi qui ai tant aimé l'Atalanta. C'est sans doute l'Atalanta, la moins Atalanta qu'on voit depuis le début de la saison. Et c'est une Atalanta qui gagne beaucoup de matchs comme Gasperini aurait aimé ne pas les gagner il y a encore 2 ou 3 ans. C'est une équipe qui surperforme devant le but. C'est une équipe qui surperforme défensivement parce que leurs gardiens font beaucoup d'arrêts. Dans le jeu, il ne se passe rien. Enfin, pas grand-chose. Ce n'est pas une équipe qui joue bien. J'ai regardé un petit peu aujourd'hui parce que l'impression visuelle est une chose, mais je voulais la confirmer par des chiffres. C'est une des équipes qui a moins souvent le ballon en Serie A.
Ah oui?
Ouais. Ils sont 15e en termes de possession. C'est une équipe dont les tirs cadrés sont les moins dangereux en Serie A. et les moins cadrés, les moins dangereux de toute l'Europe. Top 4 européen plus Ligue 1.
Ça qui en fait un co-leader de Serie A, quoi.
Ouais, mais c'est.
Mais attention, la Serie A en ce moment, c'est pas génial.
En termes de jeu, c'est pas fou.
C'est pas fou, hein, ce qu'on voit là-bas.
Mais attention, moi je trouve qu'il y a un nombre de blessés qui est anormal et que je vois pas forcément dans les autres championnats. Là, en Serie A, c'est une hécatombe dans plein de clubs et je sais pas ce qui s'est passé en termes de préparation, mais c'est vraiment problématique. Il y a beaucoup de bons joueurs qui sont souvent sur le flanc. Mais est-ce qu'ils pourront être dans les 3 ou les 4? Oui, tout à fait. Maintenant, il faudrait quand même que cette surperformance s'inscrive sur 38 journées.
Ouais.
Je ne sais pas si ça peut tenir quand même à ce point-là.
Julien Laurence.
Daniel Riolo.
Il y avait deux derbies ce week-end.
Au tableau.
Il y en a un qui a fait beaucoup parler hier, là. Mais l'autre, le derby de Londres, le seul et unique vrai derby de Londres, parce que les autres, on sait bien que c'est du pipi de chien, n'est-ce pas? Ou de chat, même, si tu préfères. Donc Arsenal, Tottenham. Tottenham, on doit en penser quoi? Conte, c'est pas génial finalement. Ça reste accroché à la troisième place. Mais donne-moi un avis sur cette équipe dirigée par Conte.
Moi, je trouve que la frustration est en train de monter un petit peu quand même, malgré tu as raison, la bonne position au classement. J'étais au match samedi. Et on en revient, mais c'est un débat qu'on a eu plein de fois avec Johan, quand il était en Italie, avec toi, Daniel. Moi, je comprends pas, avec cet effectif-là, que tu joues de cette façon-là, en fait. C'est quelque chose, je l'ai regardé jouer en première période, j'étais du côté où j'étais assis, donc en face de moi, j'avais la moitié de terrain où Tottenham défendait et Arsenal attaquait. Et je voyais très bien, et c'est très beau à voir, bien sûr, la solidité défensive, c'était bon, bien huilé, c'était même bien organisé. Après, c'est plus facile de jouer aussi bas, et comme on l'a souvent dit, hein, c'est beaucoup plus facile de mettre en place une structure défensive très efficace qu'une structure offensive très efficace, forcément, puisque t'as pas le ballon. Donc, mais quand même, c'était très beau, ils défendaient très bien, il y a aucun problème. Mais qu'avec le ballon, ce soit si minimaliste, encore une fois, moi je trouve ça frustrant et je suis même pas supporter de Tottenham. Et moi, je comprends pas pourquoi. Peut-être que Conte ne peut pas le faire, mais avec les joueurs qu'il a, de proposer si peu, mais pas que dans ce match-là. Hein, depuis le début de la saison, quand il gagne, c'est rarement très flamboyant. Alors il y avait la victoire contre Leicester avec le triplé de Son en 13 minutes, mais avant ça, c'est très laborieux aussi. Tous les matchs qu'ils ont joué cette saison à Nottingham Forest contre West Ham, c'est très laborieux aussi. À Chelsea, ils font 2-2, c'est miraculeux. T'as un joueur comme Perisic, il est jamais servi. Et en plus, dans un match comme celui-là, Conte fait n'importe quoi dans son changement après l'expulsion d'Emerson. Mais le pire, finalement, Daniel, pour terminer, c'est que si t'es supporter de Tottenham, que t'es mené 3-1 à l'extérieur à Arsenal dans le match le plus important de la saison, et d'accord, t'es à 10 contre 11, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux marquer sur coup de pied arrêté, tu peux marquer un but, revenir à 3-2, et après, tu sais pas ce qui peut se passer dans les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes, et que tu fais sortir. Tu fais les quatre remplacements, en même temps, et tu fais sortir Richarlison, Son, et clairement, t'abandonnes le match, en fait. Tu dis, bah voilà, ça sert à rien de jouer, je fais rentrer des pipes et des mecs défensifs pour pas en prendre un quatrième, finalement. Moi, si j'étais supporter de Tottenham, ça me rendrait fou. Mais sincèrement, ça me rendrait fou. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a échappé au pire Conte dans les médias et sur les réseaux sociaux de la part des supporters. Je trouve qu'on s'est très gentil avec lui parce que moi, Mais balancer un match comme ça en faisant ces quatre changements là, je trouve ça inacceptable.
Avec ton micro, Daniel.
Mine de rien, en Angleterre, il a encore une bonne cote parce que ouais. Son CV est encore très présentable, quoi.
Ça te protège combien de temps, ça? Attention.
Je sais pas, mais probablement un petit peu. On n'a plus beaucoup de temps, j'accélère. Polo, tu préfères me parler de Dortmund ou en voyant les buts de Bundesliga, j'ai revu la tronche de Kovacs. J'avais oublié qu'il était retourné en Bundesliga et à Wolfsburg, où ça va pas fort.
Pour lui. C'est compliqué pour lui, même si le but dans les arrêts de jeu de Gerhardt fait du bien au FOFL, mais le club est toujours derrière lui. C'est de toute façon Wolfsburg, c'est un peu comme Leverkusen. Comme il n'y a pas une énorme pression du public, comme ça dépend du multinational, en l'occurrence Volkswagen, il faut que les joueurs se motivent eux-mêmes. Or, on est en train de changer de génération, on a racheté des jeunes, etc. Il y a évidemment une équipe qui est faite pour aller en Europa League, mais voilà, ça fonctionne pas depuis le début de la saison. Il a commencé à gueuler d'ailleurs, de toute façon. Pour l'instant, les dirigeants sont derrière lui. La victoire contre Stuttgart a fait énormément de bien d'ailleurs, je trouve. Donc on verra en fin de saison. Au moins, on fera un bilan à la mi-saison, mais il devrait remonter normalement, logiquement, en milieu de classement.
Tu peux me faire 10 secondes sur Jamal Musiala, s'il te plaît, Polo, parce que beaucoup le réclament sur Direct Studio.
Ouais, mais il est monstrueux. C'est-à-dire qu'il est. Ah oui, d'ailleurs, Thomas Müller et Kimmich sont covidés, donc sont absents contre le match, contre Pilsen. Donc il sera à nouveau meneur de jeu. Il est extraordinaire, tout ce qu'il fait. Un but de passe décisif contre Leverkusen. La seule question qu'il faut savoir, c'est à quel moment il va remplacer Thomas Müller pour devenir le meneur de jeu de cette équipe du Bayern.
Parfait, efficace, synthétique. Merci,
Fred,
Polo. C'est terminé.
Ah, c'est terminé.
Eh ben, et moi, alors.
Je voulais savoir si ça existait, le concept de bête noire en Espagne. C'est quoi ce gardien qui
est. Bestia Negra.
C'est quoi ce gardien qui fait peur à Benzema?
Voilà, bah Benzema.
Tu fais en 20 secondes?
Bah, moins. Benzema, contre Osasuna la saison dernière, avait loupé deux pénaltys face à Sergio Herrera. Et de nouveau, Osasuna, hier, pour le but qui devait être le but de la victoire. Et Benzema a frappé sur la barre. Donc,
c'est fou.
C'est vrai que Sergio Herrera a empêché Benzema de marquer trois pénaltys.
Il le fait peur.
Voilà pour les drôles dames dans Génération After. Merci Johan. Merci
au fantastique public de l'Atalanta.
Merci, c'est ironique évidemment. Merci Fred, merci Julien.
Ciao, ciao.
Et également, bonne soirée les gars, votre semaine Ligue des Champions. La Ligue 2 rapidement, Xavier Grimaud, Laval-Bordeaux.
Ouais, c'est reparti depuis 10 minutes. Énorme occasion pour Bordeaux, 1-0 pour les Girondins. Il souffle Sissoko et la parade encore de Johan Sauvage, le gardien de Laval qui maintient Laval dans le match. C'est très équilibré, mais les occasions les plus franches sont quand même bordelaises. 1-0 pour les Girondins. Le buteur, on le rappelle, c'est Maja, 5e.
À tout à l'heure, Xavier, la suite de ce match dans l'After avec Daniel et Gilbert dans un instant. Merci à tous d'avoir écouté Génération After. À plus tard.
Génération After.